carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Les dessins d'Ingres, ombre permanente. Belle feuille du musée Ingres de Montauban, exposée au musée de la vie romantique à Paris. De Jean-Auguste Dominique Ingres, artiste majeur du XIXe siècle, considéré comme le meilleur dessinateur de son temps, cette exposition réunit une centaine de dessins préparatoires choisis par l'écrivain et essayiste Catherine Lépron, qui avait carte blanche. Et Canal Académie n'a pas boudé le plaisir de retourner au musée de la vie romantique pour revisiter Ingres et rencontrer le directeur du musée, Daniel Marchessault. Daniel Marchessault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur général du patrimoine et co-commissaire de l'exposition. Voulez-vous nous présenter les belles feuilles du musée Ingres de Montauban qui sont ici rassemblées et faire une visite virtuelle pour nos internautes du monde entier ?
Avant de vous présenter un petit peu salle par salle l'ensemble de ces dessins, il convient de préciser que cette sélection d'une centaine de feuilles a été effectuée parmi les collections considérables du musée Ingres à Montauban. Vous savez qu'Ingres avait perdu son fils et n'ayant pas d'héritier en dehors de sa deuxième épouse, il a décidé de tout laisser à sa ville natale et le musée regroupe aujourd'hui plus de 4500 feuilles d'Ingres qui ont été répertoriées par le spécialiste d'Ingres qui a été longtemps conservateur là-bas, qui est Georges Vigne. Et évidemment, beaucoup de ces feuilles sont pour la plupart inconnues. Elles sont très peu connues pour une très bonne raison, c'est que d'une part, elles sont de toute nature, de toute dimension, mais elles ont pour beaucoup été trop exposées jusqu'à la dernière guerre. Et on s'est rendu compte à la fin de la dernière guerre qu'il fallait absolument sauver cet ensemble considérable, sinon toutes ces feuilles allaient disparaître. Elles étaient fanées avec la lumière, elles avaient souffert de l'humidité au cours d'une centaine d'années, 80 ans d'exposition, et elles sont maintenant donc conservées dans des conditions de conservation absolument parfaites. Mais beaucoup d'entre elles, évidemment, accusent leur âge, si j'ose dire, et l'usure du temps. Elles n'en demeurent pas moins tout à fait émotives, tout à fait vibrantes d'émotions, parce que Jean-Auguste Dominique Ingres, qui a gardé toutes ses feuilles, ça c'est extraordinaire qu'un peintre garde 4500 feuilles, on imagine qu'il y a environ plus de 10 000 dessins d'Ingres, dont ces 4005 qu'il avait conservés par-devers lui. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'il a souhaité garder ses feuilles, ses innombrables expériences, au fond comme terreau nourricier de ses recherches picturales. Et c'est un Ingres tout à fait bouleversant que l'on voit ici, parce que c'est le contraire de ce que l'on imagine. Ce peintre que l'on peut identifier comme Monsieur Bertin, puisque tout le monde connaît ce tableau, qui apparaît dans sa peinture comme quelqu'un d'extraordinairement sûr de lui, sûr de son crayon dans ses admirables portraits, nous offre la possibilité assez bouleversante de voir l'homme au travail, l'homme au labeur, l'homme qui s'interroge, celui qui cherche des solutions avec âpreté, qui sur le même dessin va éventuellement essayer plusieurs positions d'un torse, d'un bras, d'une main. C'est quelqu'un qui exécutera d'autant plus rapidement ses tableaux à l'huile qu'il aura très longuement mûri la recherche formelle. C'est évidemment un jour que l'on ignore lorsqu'on se promène dans les plus grands musées du monde et que l'on voit l'âge d'or ici, Mademoiselle Rivière là, Madame Moitessier ailleurs. Il y a là une affirmation d'un génie à l'époque du romantisme, mais traitant du néoclassicisme, avec une puissance et une sûreté de soi-même qui est très convaincante. Et là, nous voyons l'intimité, le journal intime, les pages qui se suivent et ne se ressemblent pas, celles qui sont un petit peu parfois maladroites, qui sont au contraire pour d'autres tout à fait visionnaires, des angles inattendus, d'extraordinaires richesses recelées dans trois traits de crayon. Il est d'ailleurs intéressant de noter à ce sujet que toutes ces pages sont au crayon. Il y a très peu de dessins à l'encre. Il s'autorise là des repentirs, alors qu'il ne s'en autorise absolument aucun dans les grands portraits qui lui ont permis de gagner sa vie pendant son premier séjour à Rome. Il maudissait ces portraits, qui étaient une tâche considérable pour lui. Il en souffrait beaucoup, mais c'est effectivement ce qui lui a permis de passer près de 10 ans à Rome dans un bonheur parfait avec sa première épouse et au contact des grands maîtres italiens.
C'était pour des besoins financiers, parce qu'il a vécu, je crois, une carrière assez fluctuante. Il a connu les honneurs, mais également des périodes d'austérité, n'est-ce pas exact ?
Il était tellement doué qu'il gagne le prix de Rome en 1801. Il ne peut partir en raison des événements politiques en 1805. Et à l'époque, le séjour des pensionnaires à la Villa Médicis était de 4 ans. Donc, en 10, il n'avait qu'un désir, c'était de rester à Rome. Mais il n'avait plus la manne, je dirais, de la pension de la Villa Médicis, de l'Académie de France à Rome. Naturellement, dans ces cas-là, il a fallu qu'il travaille, et il a très bien gagné sa vie, soyons justes, parce qu'il était un peintre extraordinairement renommé, par cette acuité de vision extraordinaire et ce sens du portrait, notamment en particulier au crayon, qui a fait sa gloire aussi bien en France qu'en Italie qu'en Angleterre, puisque évidemment toute l'Europe passait par l'Italie. Il faut dire aussi que jusqu'en 1814, les Français étaient installés en Italie. On se souvient naturellement que, nous en parlerons dans la dernière salle, Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon, ayant épousé Murat, était devenue reine de Naples. Ingres a d'ailleurs fait un très beau portrait à l'huile de Caroline Murat. Mais nous avons dans la dernière salle la toute première esquisse qui n'est pas plus grande qu'un timbre-poste, qui est le petit visage absolument charmant, charmant de la très jolie reine Caroline. Et on se rend compte là combien Ingres travaillait pour perfectionner son trait dans toutes ces feuilles d'études.
Revenons à l'exposition, si vous le voulez bien, au Musée de la vie romantique à Paris. Le choix des belles feuilles présentées ici a été confié donc à Catherine Lépron, écrivain, qui a eu carte blanche.
Catherine Lépron a été libre de choisir pendant une semaine une centaine de feuilles dans les réserves du musée de Montauban. Privilège magnifique et surtout, œil très différent. Et donc sélection très inattendue, qui n'est pas celle qu'un historien d'art aurait pu faire ou qu'un conservateur de musée aurait pu faire. Catherine Lépron, qui a pris Goncourt de la Nouvelle en 1992, qui a beaucoup publié, qui vient d'ailleurs de publier un ouvrage aux éditions du Seuil qui s'appelle « La mort d'un chien », qui est un roman, a été invitée par le musée de Montauban à participer à une série d'expositions qui sont des cartes blanches. La première carte blanche avait été donnée à un écrivain que nous connaissons bien, qui est Adrien Goetz. Adrien Goetz est à la fois historien d'art, professeur à la Sorbonne. Il est maintenant rédacteur en chef de la nouvelle revue publiée par le Louvre, qui s'appelle Grande Galerie. Mais il a été le premier à être invité par le musée de Montauban, puisqu'il a écrit un ouvrage, un roman sur la dormeuse de Naples. La dormeuse de Naples fait référence à ce tableau mythique qui a été perdu et qu'il aurait peint donc lorsqu'il était à Naples, en même temps que le portrait de Caroline Murat. Donc Adrien Goetz a inauguré cette sélection d'Ingres il y a 2 ans et Catherine Lépron est l'écrivain à part entière, écrivain et poète, qui lui a succédé. Catherine Lépron a réuni ses 100 feuilles d'Ingres sous le titre de « Ombre permanente ». Faisons allusion par là à un phénomène physique très étrange qui a été découvert par les savants japonais et américains après la bombe nucléaire de Nagasaki et d'Hiroshima, où sont restés fixés sur certains murs des ombres permanentes, des ombres qui se sont fixées par la radiation de certains corps, de certaines positions, de certains mouvements qui étaient effectués au moment où la bombe est tombée. C'est une chose assez douloureuse, c'est à la fois douloureux et particulièrement émouvant. Je dirais que d'une façon tout aussi meurtrière, mais évidemment moins tragique parce que, ne venant pas de la main de l'homme, Pompéi, avec les traces des habitants, les moulages, les reliques que nous avons pu garder sont un petit peu du même registre, me semble-t-il. Et Catherine Lépron a voulu voir dans cette sélection, elle a ressenti des ombres permanentes qui étaient, au fond, comment Ingres a su pérenniser certains questionnements, certaines interrogations, certaines recherches. Et naturellement, à travers toutes les variations, notamment sur les corps et sur les drapés, on se rend compte que lorsque, pour un tableau d'histoire par exemple, Ingres fait toutes ses études, il commence par déshabiller les corps, ensuite il étudie les drapés, et ensuite il recompose les deux pour avoir la figure habillée. Toutes ces variations sur les positions des corps sont des thèmes récurrents. Et on se rend compte qu'entre 1815 et 1860, vous avez un certain nombre de positions qui sont reprises. Et nous le voyons bien dans la première salle de l'exposition, notamment par les études d'académie masculine, où vous avez des études aussi bien pour Jésus parmi les docteurs que pour l'apothéose d'Homère, des positions de corps qui se retrouvent d'une façon très singulière. La position du cavalier, par exemple, la position du prêteur, la position de Jésus, sont des positions que l'on retrouve à 5, 10, 15, 20 ans d'intervalle. Et il y a là, dans cette permanence, une forme d'obsession, une récurrence qui montre bien sa science des corps et son sens de l'étude. Cet homme qui a une espèce de puissance visionnaire pour la construction très complexe de ses peintures achevées, étudie chaque fragment avec la même intensité que le tout. Et c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il le laisse là apparaître, et Catherine Lépron l'a particulièrement bien souligné, et ça c'est un aspect très neuf, je crois, de cette exposition.
Canal Académie.
En compagnie de Daniel Marchessault, directeur du musée de la vie romantique, nous poursuivons la visite de l'exposition des dessins de Jean-Auguste Dominique Ingres.
Alors, dans la deuxième salle, on entre encore plus dans le détail, puisque cette salle regroupe une quinzaine de feuilles d'études de main. Il y a, c'est très étonnant, entre la main du licteur, la main de la Vierge, la main d'un portrait, il y a toutes les formes d'études. Et on pourrait croire que ce sont presque des dessins faits à l'École des Beaux-Arts, tellement il y a là de variations et de recherches intenses. Or, ce sont là des œuvres qui sont des recherches d'un homme accompli, dans toute sa maturité, et qui continue encore à chercher, alors qu'il maîtrise parfaitement, mieux que quiconque, évidemment, ce rendu graphique. Donc, cette variation sur le thème des mains n'en est que plus, pardonnez-moi l'expression, que plus poignante. Parce qu'on se rend compte qu'il continue à faire ses gammes comme un grand musicien fait ses gammes tous les jours.
Ou Ingres, c'est d'ailleurs notoire, a fait de la musique dans sa jeunesse, d'où la fameuse expression « violon d'Ingres ».
Il en est resté le violon d'Ingres que vous avez vu naturellement au musée de Montauban. Il avait sa place réservée dans l'orchestre de Toulouse et qu'il a eu, évidemment, de très nombreux amis musiciens, Cherubini, Donizetti, Rossini, Liszt et tant d'autres. Donc, c'est vrai que la musique fait partie intégralement de ce champ clos de son imaginaire et de sa sensibilité.
Canal Académie.
En compagnie de Daniel Marchessault, nous traversons la cour pavée du musée de la vie romantique et nous entrons dans un autre pavillon où sont exposées les belles feuilles d'Ingres.
La salle basse réunit toute une série d'études autour en particulier du thème de Saint-Symphorien. Saint-Symphorien est le tableau qui lui aura demandé le plus de travail. Il le reprend à deux reprises, à la fin des années 20 et au début des années 40. Et il y a d'innombrables études, nous en présentons ici une quarantaine, et on se rend compte que justement la construction a été changée à trois reprises. C'est-à-dire que la composition d'abord était horizontale, puis verticale, l'ordonnancement des très nombreux personnages a varié, et on s'en est rendu compte dans la deuxième salle où il y avait les études de main, où on voit clairement l'attitude de la mère qui brandit son poing selon différentes positions pour exhorter son fils à ne pas renier sa foi, alors que les Romains vont le condamner. Et il y a là une force extraordinaire dans ce bras tendu, cette espèce de vocifération graphique. Mais dans la salle basse, nous voyons toute une série d'études concernant d'autres personnages, et en particulier les nombreuses études pour le licteur qui sont là. Dans cette salle basse, nous avons évidemment d'autres études pour l'âge d'or, pour d'autres grandes compositions, mais l'idée est de retrouver au cours d'une quarantaine d'années des espèces de récurrence, des formes de récurrence dans les volumes, dans les études et dans le trait. Alors que dans le grand atelier qui est, au fond, je dirais, le clou de l'exposition, il y a là toute une série d'académies, notamment d'études de femmes et de mères, qui sont tout à fait bouleversantes par leur tendresse, par leur émotion, et jamais par leur sensualité. Alors que on se rend compte que Ingres a été particulièrement regardé par ses suiveurs, et en particulier par Picasso, Matisse ou Balthus. Le grand dessin montrant deux études d'anges sur la même feuille montre d'ailleurs que les anges sont parfaitement sexués, si j'ose dire, et que Balthus a clairement regardé des œuvres de son prédécesseur, puisqu'il a lui aussi été à la Villa Médicis. Et il y a des feuilles qui sont une modernité tout à fait extraordinaire. On se souvient que Jean Clerc avait fait cette exposition Picasso-Ingres à l'Hôtel Salé il y a quelques années. Et jamais, au fond, cette rencontre, je ne peux pas parler d'influence, mais cette rencontre entre deux génies n'a été aussi claire que dans cette exposition. Et là, il est évident que nous avons des rapprochements assez immédiats qui peuvent se faire.
Daniel Marchessault poursuit.
En revanche, pour ce qui concerne, dans ce même grand atelier, les portraits, on se rend compte qu'il dessine assez rapidement, mais fait de nombreuses études sur de petits formats qui lui permettent finalement de croquer, je dirais, le sentiment de ce qu'est ce dessin au trait, le sentiment que lui inspire son modèle, qui est toujours absolument sans modeler. Les modelés sont réservés, si j'ose dire, aux drapés, alors que les études sont toujours, pour la plupart du temps, des dessins au trait. Et la vie qui en émane est tout à fait étonnante. J'en veux pour preuve cette très belle étude pour le bain turc, qui est au fond une reprise par un homme qui a 80 ans, d'un portrait de sa première femme qui date de 1818, nous sommes en 1860. Il retrouve dans ses feuilles anciennes le profil de sa première femme qu'il va immortaliser dans cette somptueuse odalisque qui est en bas à droite du bain turc que nous avons tous en tête. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir qu'au fond, plus de 40 ans se sont passés et qu'il a pu trouver cette émotion nourricière à partir d'un premier dessin de son épouse. Et comment un portrait peut tout d'un coup, par son émotion, je dirais presque physique, pas sensuelle, mais physique, se retrouver dans une composition beaucoup plus large, comme le bain turc, qui est évidemment son chef-d'œuvre absolu, qui a été refusé par le Louvre pendant très longtemps, on s'en souvient. ce n'est pas l'origine du monde. Nous sommes dans des périodes comparables, mais dans des registres de représentation tout à fait différents. Eh bien, voilà, tout ça est né d'un dessin de 1818. Tout ça, ça fait de mon admiration la plus absolue.
Au-delà d'un académisme, on peut dire, qui tient à sa maîtrise parfaite vraiment du trait, nous trouvons donc sous-jacente une profonde émotion, comme vous venez de l'évoquer. Une émotion qui baigne vraiment toute l'œuvre de ce très grand maître.
Ce qui est également très bouleversant, c'est de voir que cet immense coloriste, toutes ses études sont au dessin, au trait, avec un tout petit peu d'ombre, un tout petit peu d'estompe, mais très très peu, une immense économie de moyens. Sur la même page, éventuellement, plusieurs études qui se superposent, quelques collages. C'est assez étonnant de voir qu'il est le premier, au fond, à utiliser le collage pour mettre sur la même feuille différentes bribes d'études. Certaines feuilles montrent des manques, c'est-à-dire qu'il y a eu des dessins qui sont tombés, qu'on n'a pas pu retrouver, etc. Cette exposition a pour ça un climat très particulier, parce qu'on a l'impression qu'on est dans l'atelier d'un peintre et qu'on feuillette des cartons, que toutes ces pages sont les différents mots d'une phrase et que ces mots de phrase constituent une toute petite trace, une ombre permanente, en effet, de ce qui va être un chef-d'œuvre en devenir et qui va faire la somme, évidemment, d'un génie comme Ingres.
S'impose ici la question, alors permettez-moi, pourquoi Ingres serait-il un génie au même titre que d'autres maîtres reconnus comme tels, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Rembrandt par exemple?
Au fond, chaque siècle exprime différemment sa passion, sa douleur, sa poésie, sa sensibilité à travers certains grands visionnaires. Et que les visionnaires soient des visionnaires sous la Renaissance, sous l'Antiquité, au Moyen-Âge ou à l'époque du romantisme, chacun, je crois, le traite différemment en fonction de l'époque où il s'inscrit. Michel-Ange est-il meilleur peintre que meilleur architecte ou meilleur sculpteur? C'est lui qui disait, à propos de Benvenuto Cellini, qui venait de recevoir la commande pontificale d'un objet d'art, qui était donc un objet d'art décoratif, il disait au pape: mais Benvenuto Cellini ou moi, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'il fait partie de la guilde des orfèvres qu'il est un personnage moins génial. Il y avait la reconnaissance extraordinaire de la part de Michel-Ange d'un autre génie dans un domaine qui n'était pas le sien. Eh bien, de même que entre deux contemporains qui peuvent être Michel-Ange et Cellini ou qui peuvent être Picasso et Matisse, il y avait, et les sentiments entre Ingres et Delacroix n'était pas forcément nourri de folle sympathie, mais il y avait quand même un respect mutuel. Et naturellement, les sources qu'Ingres s'est reconnu ou s'est choisi à travers les pièces de l'Antiquité ou les maîtres primitifs italiens lui ont fait sublimer ces espèces de codes de représentation pour trouver les siens propres.
Nous n'avons pas trop évoqué encore la biographie d'Ingres. Il fut déjà à l'école de son père, qui était également peintre, et surtout à l'école de David. On peut d'ailleurs, me semble-t-il, reconnaître une certaine similitude entre David et Ingres dans certaines œuvres, n'est-ce pas?
Oui, mais peut-être que la virtuosité d'Ingres est plus grande, et peut-être que le dogmatisme davidien, qui, au fond, culmine à la fin du siècle des Lumières, il est aussi teinté de toute l'amertume de ce que va être l'exil, alors que Ingres, naturellement beaucoup plus jeune, lui ne va pas s'exiler, il va choisir de partir. C'est tout à fait autre chose, sur le plan des chocs émotionnels.
Je reviens à ma question du génie. Comme vous avez qualifié l'artiste Ingres par rapport à d'autres maîtres reconnus comme génie. Et cela me fait penser d'ailleurs à une exposition au Louvre d'il y a quelques années. Elle réunissait des dessins de Michel-Ange d'une remarquable fougue, d'une sensualité, en même temps vraiment d'une infinie subtilité des traits. Une possible comparaison entre Michel-Ange et Ingres, Daniel Marchessault?
Oui, alors il est évident que Ingres, qui a quand même passé la moitié de sa vie, ou pas loin, à Rome, était, j'allais dire, avait son inspiration, son modèle tout trouvé. On conserve peu de dessins de Michel-Ange, on en conserve énormément d'Ingres. Et justement cette exposition qui montre un Ingres au travail, au labeur. Il est laborieux comme on laboure une terre. On y revient, on réétudie, on réessaye. Il y a dans certains dessins d'Ingres très aboutis cette espèce de perfection que l'on trouve dans des dessins de Michel-Ange parfaitement aboutis également. En revanche, ici, dans cette exposition, c'est la fragilité. C'est un petit peu la peau du génie qui a ses variations, qui a ses évolutions. Il y a une vibration dans ses dessins, une espèce de quête intuitive qui me paraît très singulière. Il cumule les moments, il cumule les temps. On est, dans, par exemple, dans beaucoup de ses dessins où il y a deux positions différentes, on est à la fois dans un essai formel et dans un essai synchrone. Mettre plusieurs moments sur la même page. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Oui, si je vous comprends bien, c'est que vous faites référence à cette façon qu'il a de, disons, de condenser plusieurs instants dans une même étude. Et ça me fait penser, par exemple, dans l'étude pour le tableau « L'apothéose d'Homère », on se souvient, Homère couronné comme Jupiter par la victoire et recevant l'hommage de ses pairs, poètes et philosophes. Et nous voyons là différentes tentatives en recherche d'une position juste et des bras, de la tête, du genou, tout ça réuni dans une même esquisse.
On va s'en rendre compte lorsque le tableau, l'apothéose d'Homère en particulier, mais le martyr de Saint-Symphorien également, puisque c'est au fond l'un des... Enfin, peut-être le noyau central de cette exposition, pour cette toile qu'on ne voit jamais puisqu'elle est un petit peu dans l'ombre permanente à la cathédrale d'Autun, dans la façon dont il s'interroge sur l'ordonnancement de ces figures, sur la position qu'elles vont prendre, il y a là aussi une description dans le temps. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans le mouvement, dans la composition définitive, c'est qu'il cumule des moments différents sur la même toile.
Daniel Marchessault, nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre entretien. Je vous remercie de nous avoir apporté votre sensibilité et votre expertise qui nous ont permis de remonter jusqu'à la démarche du créateur et de nous plonger dans l'univers intime et sans doute spirituel de ce grand maître du 19e siècle. Merci Daniel Marchessault.
Merci.
Je rappelle à nos auditeurs l'exposition au Musée de la vie romantique à Paris, Les dessins d'Ingres, ombre permanente, belle feuille du musée Ingres de Montauban, du 16 septembre 2008 au 4 janvier 2009.